Mais avant de faire la lecture, je voudrais vous parler brièvement d'un homme qui s'appelle Joshua Harris, un auteur américain qui a eu une grande influence dans les milieux chrétiens évangéliques dans les années 90 et au début des années 2000. Trois de ses livres ont été traduits en français, ont rencontré un grand succès, ils ont été publiés par la Maison de la Bible, à commencer par son best-seller dont vous avez peut-être entendu parler, « J'ai tourné le dos au flirt », suivi d'un autre livre, « Jeune homme rencontre jeune fille », et enfin, « Quand le désir devient trop fort ». Trois livres qui traitent des relations garçon-fille, du mariage et de la sexualité. Alors Joshua Harris est l'aîné d'une famille nombreuse, il a suivi sa scolarité à la maison, il a été élevé dans la foi chrétienne évangélique avec des parents conservateurs dont les valeurs s'ancraient solidement dans la Bible. Et dans ses livres, Joshua Harris défend vigoureusement la dignité du mariage, le principe de la pureté sexuelle et la centralité du projet de Dieu dans les relations entre les garçons et les filles. Et d'ailleurs, dans ses livres, Joshua Harris prend assez radicalement le contre-pied de la culture ambiante qui est celle du flirt et de l'aventure sans lendemain. Il y a à peu près 20 ans maintenant, Joshua Harris a mis en pratique ses principes en fréquentant lui-même une jeune femme du nom de Shannon. Il s'est marié avec elle, il est devenu pasteur, ils ont eu 3 enfants. On fait un bond dans le temps, 20 ans plus tard, on est en juillet 2019, et en l'espace de 10 jours, Joshua Harris vient d'annoncer qu'il divorçait d'avec sa femme et qu'il renonçait tout simplement à la foi chrétienne. Alors, il y a des gens ici qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de Joshua Harris avant aujourd'hui. Mais il y en a aussi parmi nous qui ont lu ses livres, qui ont suivi un peu son ministère, et chez qui cette annonce récente a sans doute provoqué un véritable choc. Qui sait, peut-être que vous l'apprenez maintenant même. Je ne vais pas essayer d'interpréter ce qui s'est passé dans la vie de Joshua Harris. Je vous rapporte cette histoire seulement pour illustrer une réalité dont on va parler aujourd'hui. C'est que même si on arrive à réunir toutes les meilleures conditions possibles pour pouvoir rencontrer la bonne personne, fréquenter cette personne en respectant les principes de la Bible et épouser cette personne d'un cœur déterminé et sincère devant Dieu, eh bien, il ne faut quand même pas s'imaginer qu'une fois marié, ça va être un conte de fées. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ce genre de recul que le texte qu'on va lire dans un instant veut qu'on prenne par rapport au mariage. Alors, je vous rappelle vite fait le contexte, hein. C'est que dans l'église de Corinthe, au 1er siècle, eh ben, les gens ils se posent beaucoup de questions sur les relations conjugales. Alors, ils se posent beaucoup de questions sur plein de sujets, mais notamment sur les relations conjugales. Et ils vont poser leurs questions à l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, quand l'apôtre Paul va commencer à répondre à leurs questions, il va commencer par ce sujet-là, parce que ça occupe pas mal d'importance chez eux. Qu'est-ce qu'il vaut mieux en tant que chrétien, se demande-t-il? Est-ce qu'il vaut mieux se désintéresser de son corps? Le corps, c'est pas important, donc je peux coucher avec n'importe qui. Est-ce qu'il faut rejeter carrément son corps? Le corps, c'est mauvais, donc je vais vivre dans l'abstinence totale. Est-ce qu'il faut, au contraire, valoriser absolument son corps et chercher à tout prix à se marier, du coup, et à avoir des relations conjugales, puisque c'est si bien? Et vous voyez le genre de questions qui traversent l'esprit des Corinthiens, et l'apôtre Paul, il va répondre à leur questionnement, et il va leur dire tout simplement, dans le texte qu'on va lire maintenant, et ça rejoint ce qu'on a vu les dernières fois, hein, il va leur dire tout simplement, arrêtez de faire une fixation là-dessus. C'est pas que le mariage n'est pas un sujet important, c'est un sujet important. Mais il y a des choses bien plus importantes dans la vie que le fait de se marier ou de rester célibataire. Et c'est avec ce recul qu'on va pouvoir, en fait, garder le mariage à sa place, à sa juste place, en l'élevant ni trop haut, ni pas assez. On va lire le texte, si vous êtes d'accord, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, je l'ai dit, et on va prendre au verset 25. La dernière fois, on s'était arrêté au verset 24, on prend la suite, donc, et on lira jusqu'à la fin du chapitre. Alors dans ma traduction, il y a le terme que vous allez trouver à plusieurs reprises dans le texte, le terme de vierge. Ça commence par « pour ce qui est des vierges ». Dans votre traduction, c'est peut-être traduit autrement. En fait, l'idée, c'est des jeunes femmes qui n'ont jamais été mariées. Voilà l'idée. C'est un statut social, un statut au niveau de l'état civil, plus qu'un statut biologique. Ce n'est pas à ça d'abord que l'apôtre Paul pense. Il pense d'abord au fait de célibataires qui n'ont jamais été mariés. Verset 25. « Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des calamités présentes. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Or moi, j'use de ménagement à votre égard. Voici ce que je dis, frère. Le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur, sans tiraillement. Si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'ils doivent en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pèche pas, qu'on se marie. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien. Celui qui ne la donne pas fait mieux. Une petite parenthèse, si dans votre traduction, ce n'est pas formulé exactement comme ça, je vais y revenir dans un instant. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Voici pour la lecture du texte biblique. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, on voit bien depuis plusieurs semaines maintenant que dans la Bible, dans les Saintes Écritures que tu as inspirées, il y a beaucoup de sujets qui nous touchent de près, j'ai envie de dire, des choses pratiques pour notre vie. Et on ne voudrait surtout pas mal comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Alors s'il te plaît, viens à notre secours maintenant et éclaire-nous pour que nous sachions comprendre et recevoir, accepter et mettre en pratique tout ce que tu veux nous enseigner maintenant. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie que le fait de se marier ou que le fait de rester célibataire. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie que ça. Pour commencer, l'apôtre Paul veut nous inspirer un peu de réalisme. En effet, la première chose que ce texte, qu'on voit dans ce texte, au verset 25 à 28, et si vous avez le texte sous les yeux, je vous invite à le garder ouvert devant vous, la première chose qu'on voit, c'est que le mariage, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas une chose facile non plus. Paul, il commence par dire que, à son avis, c'est plutôt bien de ne pas se marier, et donc de rester célibataire et chaste, parce que c'est ça l'autre option, hein, si on n'est pas marié, c'est le célibat et la chasteté qui vient avec. Ça, ça ne devrait pas nous surprendre parce qu'en fait, il en avait déjà parlé de ça un peu plus haut dans le même chapitre, au verset 8, si vous vous en rappelez. Mais là, il donne une explication supplémentaire. C'est que les chrétiens, ils vivent dans un contexte qui est déjà assez difficile comme ça. Et le mariage, honnêtement, ça complique la vie. Ça complique la vie. Si on n'a jamais été marié, on peut se marier ou pas. Il n'y a pas d'ordre du Seigneur à ce sujet, dit-il, dans un sens ou dans l'ordre. Le Seigneur n'a jamais dit « Vous devez vous marier si vous voulez être des chrétiens fidèles ». Et il n'a jamais dit « Vous ne devez pas vous marier si vous voulez être des chrétiens fidèles ». Il n'a pas donné d'ordre explicite. On peut se marier ou pas. Mais il faut juste savoir que si on se marie, on va faire face à des difficultés supplémentaires. Ici-bas. Verset 28. Et Paul, il avoue, il reconnaît qu'en fait, il se fait du souci. En tant que pasteur bienveillant vis-à-vis des chrétiens de Corinthe, il se fait du souci pour eux. Il ne veut pas qu'ils aient une vie chrétienne plus compliquée que nécessaire. C'est bien ce qui est dit, hein, dans le passage. Vous voyez le réalisme de l'apôtre Paul ? C'est un peu comme quand on réfléchit à s'acheter une maison. On se dit que ce serait bien d'avoir plus de place, d'avoir un jardin, de pouvoir décorer l'intérieur comme on veut. Le rêve ! pas avoir à se soucier d'un autre propriétaire qui va nous taper sur les doigts si on fait trop de trous dans les murs et ainsi de suite. La vie serait tellement meilleure si on avait une maison. Oui, mais une maison, c'est aussi beaucoup d'entretien. C'est des charges et des impôts en plus. C'est un crédit bancaire qu'il faut pouvoir assumer à plus ou moins long terme. C'est du gazon à tondre. C'est une haie à tailler. C'est une chaudière qui casse. C'est des tuiles qui s'envolent. C'est une isolation à refaire et ainsi de suite. Ce sont des afflictions dans la chair en plus quand on a une maison. Eh bien, c'est un peu comme se dire qu'on va économiser pendant 10 ans pour pouvoir réaliser son rêve et s'acheter une Lamborghini. Sans tenir compte du coût de l'essence que ça va entraîner, ni des 15 000 euros par an qu'il faudra encore débourser en frais d'assurance, et ainsi de suite. Je ne sais pas combien ça coûte, en fait, je dis ça comme ça, c'est peut-être plus, hein. Et de la même façon, il faut qu'on soit réaliste par rapport au mariage. On a vite fait, en tant que chrétien, d'idéaliser le mariage. Et c'est compréhensible, hein, puisque le mariage, c'est quelque chose de bon, hein. Ne comprenez pas de travers ce que je suis en train de dire. Le mariage, c'est quelque chose de bon que Dieu a inventé, qui est le cadre approprié pour les relations sexuelles et pour la procréation. On en a parlé de ça ces dernières semaines. Dès la création, Dieu avait dit il n'est pas bon pour l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il lui a créé une aide qui soit son vis-à-vis, une femme. Et il a inventé le mariage à ce moment-là. Donc, on place naturellement beaucoup d'attentes dans le mariage. En plus, c'est vrai que de nos jours, le mariage est décrié et attaqué de toutes parts. Et donc, c'est normal qu'on se défende contre ce processus de déconstruction. Et comment on fait pour se défendre? On se défend en élevant de plus en plus notre idéal, en fait. Mais le problème, c'est que le mariage idéal, ici-bas, s'inscrira toujours dans un monde déchu et unira toujours deux personnes elles-mêmes déchues et faibles. Déchues, c'est-à-dire enclin au péché, enclin à faire le mal, et faible et dysfonctionnel, des personnes brisées, des personnes avec des défauts, si vous voulez. Et c'est déjà dur en tant que chrétien d'assumer sa vocation ici-bas quand on est célibataire, c'est déjà dur. Et il faut savoir que quand on se marie, bah, bien sûr, on reçoit beaucoup de bienfaits, mais on s'ajoute aussi des difficultés. Comme le dit Jean Calvin en commentant ce passage, il dit « Les saints, c'est-à-dire les chrétiens, sont le plus souvent ballottés ça et là en ce monde et sont sujets à diverses afflictions et orages, en sorte que leurs conditions ne semblent pas être propres au mariage. » Pourtant, Calvin lui-même s'est marié. Imaginez un jeune homme qui s'engage dans l'armée et qui se forme pour intégrer les forces spéciales. Bientôt, il va intégrer une unité d'élite et il sera déployé n'importe où et n'importe quand dans le monde pour des opérations secrètes extrêmement risquées. Et il vient vers vous un jour et vous dit « J'aimerais épouser votre fille. » Vous essayerez peut-être de lui dire « Écoute, mon garçon, à cause des calamités présentes et peut-être futures, peut-être qu'il vaut mieux que tu restes célibataire. » Et vous diriez peut-être à votre fille « Ma chérie, si tu te maries avec lui, tu ne pécheras pas, mais tu auras des afflictions dans la chair. Or, moi, j'use de ménagement à ton égard. Je me fais du souci pour toi. » Et Paul aussi, il veut nous inspirer ce genre de réalisme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous idéalisez le mariage. Si ça se trouve, vous n'avez jamais été marié, mais vous ne rêvez que de ça. Ou bien vous êtes actuellement marié et vous vivez au fond dans une certaine insatisfaction parce que ce n'est pas aussi bien que ce que vous pensez au fond que ça devrait être. Eh bien, prenez déjà à votre compte le réalisme de l'apôtre Paul. Le mariage, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas une chose facile non plus. Ce sont des efforts en plus, des responsabilités en plus, des conflits en plus, des inquiétudes en plus, des occasions de chute en plus. Ça, c'est le réalisme de l'apôtre Paul, ici, dans ce passage du moins. Mais après nous avoir inspiré un peu de réalisme, l'apôtre Paul, maintenant, il veut nous donner un peu de perspective. Ce qu'on voit dans la suite du texte, versets 29 à 35 maintenant, c'est que notre vie présente, y compris notre situation matrimoniale, on doit la considérer à la lumière de ce qui compte vraiment dans l'éternité. Paul, il nous rappelle la brièveté de la vie ici-bas, au verset 29, et il nous dit que puisque la vie est si brève, on ne devrait pas accorder trop d'importance à tout ce qui est, à tout ce qui appartient à cette vie. On ne devrait pas s'y agripper. On ne devrait pas fonder notre vie dessus. On ne devrait pas centrer notre vie dessus. Que ce soit nos biens matériels qu'on a peut-être en abondance, ou peut-être les biens matériels qu'on n'a pas, qui nous manquent. On ne doit pas être fixé dessus, on ne doit pas être centré dessus. Que ce soit les raisons de ce monde qui nous font nous réjouir, ou les raisons de ce monde qui nous font pleurer, que notre vie ne soit pas centrée là-dessus, et pas centrée non plus sur notre situation matrimoniale. Alors bien sûr, Paul ne dit pas ici que si on est marié, on devrait vivre comme si on était célibataire, c'est-à-dire quitter son conjoint et aller vivre en coloc avec des copains. Il dit plutôt que si on est marié, c'est quand même pas notre mariage qui devrait occuper le centre de notre vie. C'est quand même pas le mariage, même si on est marié, qui devrait occuper le centre de notre vie. Le centre appartient au Seigneur. Au Seigneur. La perspective que Paul veut qu'on ait sur notre condition présente, c'est tout simplement la perspective de l'éternité. L'idée, c'est la suivante. D'après la Bible, il y a un au-delà. Et on ferait mieux ici-bas de s'assurer d'être prêt pour ce qui vient après et qui, pour le coup, va durer pour toujours. Imaginez que vous soyez un cycliste dans le Tour de France. C'est une course qui dure 3 semaines et vous avez été recruté par votre équipe pour viser la meilleure place possible dans le classement général. Arrive la première étape et vous êtes tellement excité que vous sprintez du début à la fin et vous franchissez la ligne d'arrivée 20 minutes avant les autres. Vous avez gagné l'étape, mais vous avez dépensé tellement d'énergie que vous n'en avez plus pour le reste de la course. Et une semaine plus tard, vous êtes tellement épuisé que vous êtes obligé d'abandonner et de quitter la compétition. Disqualifié, vous apparaîtrez même pas dans le classement général à la fin. Dommage, vous avez manqué le coche. Vous auriez dû considérer chaque étape à la lumière de ce qui comptait vraiment. D'ailleurs, il y en a un, cette année, qui a fait ça, un Colombien, et il va gagner le Tour de France, enfin, sauf bombe nucléaire à Paris cet après-midi, il va gagner le Tour de France sans avoir gagné la moindre étape. Parce qu'il a considéré chaque étape de la course à la lumière de ce qui comptait vraiment et qui durerait après la fin de la course. De la même façon, on devrait considérer cette courte et première étape de notre existence à la lumière de ce qui compte vraiment, à savoir l'éternité. Jésus a dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et le monde entier dont parle Jésus, c'est cette figure qui passe, dont parle Paul dans notre passage. La figure de ce monde passe. Ce monde est une figure passagère. C'est la figure du monde à venir qui, lui, ne passera pas. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de remporter une étape du Tour de France ou de gagner à Euromillions ou d'avoir le mariage le plus heureux de l'univers s'il perd son âme? Regardez ce qui est vraiment important pour l'apôtre Paul dans le texte, au verset 35. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'on s'attache au Seigneur sans tiraillement, dit-il, ou sans distraction. Pourquoi s'attacher au Seigneur est-il plus important même que s'attacher à un conjoint dans le mariage? Eh bien, parce que notre conjoint ne peut pas nous sauver. Voilà pourquoi. La seule façon de se préparer ici-bas pour ce qui vient dans l'au-delà, c'est de s'attacher à Jésus-Christ par une foi sincère et personnelle. Parce que Jésus a fait ce que ni l'argent, ni le pouvoir, ni le savoir, ni la santé, ni Greta Thunberg, ni les progrès de la technique, ni le mariage ne pourront jamais faire pour nous. Jésus, lui, il est mort et il est ressuscité pour nous délivrer de nos fautes et de notre condition déchue et pour garantir à tous ceux qui lui font confiance une place auprès de Dieu pour toute l'éternité. Donc il y a un truc incroyable qui est en jeu dans la vie de chacun. C'est où est-ce qu'on va passer l'éternité? Et toutes les autres questions, toutes les autres considérations pâlissent et disparaissent même devant cette question ultime. et qu'on se marie ou pas ici-bas, ça ne va strictement rien changer à la réponse à cette question ultime. La seule condition déterminante, c'est notre relation au Seigneur. Voilà pourquoi, si on n'est pas croyant, peut-être que c'est votre cas ce matin, on doit par-dessus tout réfléchir à cette question ultime, plutôt que réfléchir à son plan de carrière ou à son projet familial. Et voilà aussi pourquoi, si on est déjà croyant, on doit maintenir cette perspective-là sur sa vie et garder cette question-là au centre de sa vie plutôt que n'importe quelle autre distraction possible, parce qu'il n'y a rien de plus important à la fin. Même le mariage, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon, mais ça ne durera pas dans l'éternité. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Donc on est tenté d'idéaliser le mariage, mais on est aussi tenté d'idolâtrer le mariage, n'est-ce pas ? Et de reporter sur son conjoint, un conjoint réel, un conjoint potentiel, un conjoint futur, un conjoint fictif et rêvé, on est tenté de reporter sur lui ou sur elle des attentes qui ne devraient reposer que sur Jésus. Et du coup, on est tenté d'avoir une vie subtilement plus suspendue à son conjoint ou à son mariage ou à son projet de mariage qu'à son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, il veut juste qu'on se rende compte que si c'est le cas, si c'est comme ça maintenant, on va trébucher et on va boiter dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Et c'est dommage parce que ce n'est pas obligé d'être comme ça. Donc l'apôtre Paul, il nous a inspiré un peu de réalisme. Il a voulu nous donner un peu de perspective et maintenant, à partir du verset 36, il veut nous rendre un peu de liberté. Dans la suite et la fin du texte qu'on a lu, on voit que pour ce qui est de se marier ou de ne pas se marier, Dieu nous renvoie tout simplement à un choix libre et consciencieux. Alors il faut avouer qu'il y a quelques doutes, je le disais, sur le sens exact des versets 36 à 38. On ne sait pas vraiment si Paul parle d'épouser une vierge ou de donner en mariage une vierge. Il y a une ambiguïté sur le terme qui est employé dans l'original en grec. C'est vraisemblablement, comme je l'ai lu dans ma traduction, plutôt donner en mariage que épouser. Mais peu importe en fait, parce que l'idée principale c'est la suivante. C'est que le mariage est une option et le célibat aussi est une option. C'est pas plus compliqué que ça, ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. Alors bien sûr, il y a quelques conditions, et qu'il précise d'ailleurs. Par exemple, le célibat n'est pas une option pour quelqu'un qui est déjà marié. Ça aussi, on en a déjà parlé. Ou encore, le mariage est une option pour une personne non mariée, mais seulement dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire qu'un croyant devrait épouser un autre croyant. Mais en respectant ces conditions, donc, Paul, il est quand même en train de dire, si tu penses que tu dois te marier, vas-y, c'est bien, c'est bien. Et si tu penses que Dieu t'appelle au célibat, et donc à la chasteté, vas-y, c'est bien aussi. C'est même encore plus admirable, dit-il. Ben oui, Paul, il vient de rappeler qu'il y avait certains avantages au célibat, avec la chasteté qui vient avec. Des avantages en termes de vie chrétienne et de service chrétien. D'ailleurs, il a dit plus haut qu'il aimerait bien que tout le monde soit comme lui, c'est-à-dire célibataire et chaste. Mais en plus, il faut aussi reconnaître que ce genre de célibat, le célibat de l'apôtre Paul, le célibat chrétien, est une vocation extraordinaire, au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire. Lorsque Paul dit que celui qui ne se marie pas fait mieux, ou que la veuve qui demeure sans se marier sera plus heureuse à son avis, il sous-entend probablement ce qu'il a dit plus haut, c'est-à-dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Chacun reçoit un don de Dieu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et il sous-entend probablement qu'ici c'est un don plus rare. Donc, il est en train de dire bravo tout particulièrement à ceux qui assument pleinement et sereinement cette vocation. Bravo et soyez encouragés. Imaginez que parmi vous tous, ce matin, je demande deux volontaires pour faire l'accueil la semaine prochaine, pour porter les petits badges bleus et se consacrer à l'accueil la semaine prochaine. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a personne, donc s'il y en a qui veulent se porter volontaire, ce serait bien. Bon, si vous vous portez volontaire, ou si je devais vous désigner volontaire, ça ne ferait pas de vous de meilleurs chrétiens que les autres. ça vous présenterait quand même une merveilleuse opportunité de servir Dieu et de servir l'Église, qu'auraient pas les autres qui ne se portent pas volontaires. Mais ça vous ferait peut-être aussi rater le café avant le culte, ça vous demanderait une certaine vigilance avant, pendant et après le culte. Alors si vous ne vous portez pas volontaire, vous ne péchez pas. Vous faites bien, dirait l'apôtre Paul, et personne ne vous en voudra. Mais si vous vous portez volontaire, vous faites mieux. Et on vous sera particulièrement reconnaissant. Bravo tout particulièrement à vous de choisir cette opportunité de service qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous voyez ce que dit l'apôtre Paul dans le passage ? Il n'y a pas de différence de valeur entre la vocation du mariage et la vocation du célibat. Mais il y a certainement une différence pratique. La vocation du mariage est bonne et ordinaire. La vocation du célibat est bonne et extraordinaire. Le problème, c'est que puisque le célibat est une vocation qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas donnée à tout le monde, c'est vrai qu'on peut être tenté de penser que c'est une vocation inférieure. Et je vous rappelle que les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, ils souffraient beaucoup d'arrogance spirituelle. Et ils étaient sans doute un peu obnubilés par la question de savoir bah, quelle vocation vaut mieux que les autres, parce que c'est celle-là que je veux faire, moi. Je veux être un chrétien ultra, extra spirituel. Et on serait tenté de penser que le célibat, puisque ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un défaut, c'est une tare, c'est une imperfection dans la vie d'un chrétien, peut-être un déshonneur, comme il est dit au verset 36. Mais Paul, il ne veut pas qu'on pense ça. Il ne veut pas qu'on pense ça. Jésus lui-même a dit qu'il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Les eunuques, ça désigne quelqu'un qui choisit d'être célibataire et chaste toute sa vie. Il dit qu'il y en a qui ont choisi ça à cause du royaume des cieux. Ça veut dire qu'on peut assumer sereinement son célibat pour Dieu, comme l'indique aussi le verset 37 ici. « Bravo, dit Paul, bravo aux célibataires qui vivent pour Dieu. Qu'ils soient encouragés, qu'ils soient soutenus, qu'ils soient valorisés. » Paul, il veut tout simplement nous rendre cette liberté. On peut se marier ou ne pas se marier. On ne vaut pas mieux dans un cas ou dans l'autre. Il y a d'ailleurs des gens qui ne peuvent pas se marier pour diverses raisons. Ils valent pas moins que les autres. Il y a des gens qui ont de bonnes raisons de ne pas vouloir se marier. Ils valent pas moins que les autres. Il y a des gens qui voudraient se marier, mais qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds pour l'instant. Ils ne valent pas moins que les autres. Il y a des gens qui se marient, mais qui n'arrivent pas à avoir des enfants, et qui sont tentés de percevoir leur mariage comme un mariage incomplet ou inférieur. Et pourtant, ils ne valent pas moins que les autres en réalité. Il y a des gens qui étaient mariés, mais qui sont maintenant veufs ou divorcés. Ils ne valent pas moins que les autres. Quelle que soit votre situation, pour ce qui est de vous marier, de vous remarier, ou de ne pas vous marier, à condition, bien sûr, de respecter quelques conditions qui sont, pour certaines, précisées ici, Dieu nous renvoie tout simplement à un choix libre et consciencieux. Et ce choix consciencieux sera en grande partie motivé par la réponse à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, maintenant et en pratique, de chercher d'abord le royaume de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, maintenant et en pratique, de chercher d'abord le royaume de Dieu ? Et la réponse à cette question va beaucoup nous aider à faire un choix libre et consciencieux ensuite. À ce propos, je vous conseille le petit livre de Kevin DeYoung sur le thème de la volonté de Dieu, intitulé, c'est un titre un peu long, hein, écoutez bien, « Et si Dieu voulait autre chose pour moi, j'arrêterais de faire du surplace. » Édition La Maison de la Bible avec une préface de Joshua Harris. Mais que cela ne vous empêche pas de lire le livre. Pour conclure, et pour essayer de tirer quelques applications pratiques de tout ça rapidement, on a vu dans ce passage que par rapport à la tentation qui existait de faire une fixation sur notre situation matrimoniale, que ce soit notre situation matrimoniale présente ou future ou rêvée, par rapport à cette tentation d'en faire une fixation, Paul a tout simplement voulu nous dire ici, tout simplement, qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie que le fait de se marier ou de ne pas se marier. Avec la triste histoire de Joshua Harris, on peut, je pense, déplorer une certaine culture dans nos milieux protestants évangéliques qui, en tout cas à une époque, nous faisait miroiter le mariage comme un Eldorado magnifique qu'on peut atteindre, un véritable jardin d'Éden idyllique, un conte de fées qu'on peut connaître, qu'on peut habiter à condition de respecter certaines règles, à condition de faire les choses correctement. Mais en empruntant légèrement à un titre d'article que j'ai vu passer cette semaine, je dirais qu'il y a presque un faux évangile ici, qu'on pourrait appeler l'évangile de la prospérité matrimoniale. Fais comme ci, fais comme ça et tu seras béni. Fais comme Joshua Harris et tu auras un mariage heureux. Attends, non, ça ne marche pas. Il nous faut plutôt un peu de réalisme. Le mariage, c'est le plus grand défi au monde, pour reprendre l'expression de Gary Thomas dans son livre sur le mariage intitulé « Vous avez dit oui à quoi ?» Qu'on soit marié ou futur marié, on doit être prêt à ça. Et on doit s'humilier devant Dieu et lui demander constamment son secours et ses forces. La vie constante de pénitence qu'est la vie chrétienne se vit, plus forte raison, dans le mariage. Il nous faut aussi la bonne perspective. Jésus vaut plus que le mariage. Si je suis célibataire aujourd'hui, ma vie devrait être centrée sur lui et je devrais le rechercher plus que rechercher un époux ou une épouse. Si je suis marié, ma vie devrait aussi être centrée sur lui. Et curieusement, c'est ça qui va le plus favoriser la solidité de mon mariage. Enfin, il faut qu'on se rappelle la liberté qu'on a. La liberté qu'on a de servir Dieu comme on est. On en a parlé, je crois, c'était il y a 2 semaines. Servez comme vous êtes, marié ou non. Le mariage, ça peut être bien. Le célibat, ça peut être mieux. Mais la vraie question, c'est est-ce que j'appartiens à Christ ? Et si oui, comment puis-je le servir le mieux possible, dès maintenant ? Amen. On va prier. Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin de ta parole pour corriger nos attentes vis-à-vis de beaucoup de choses dans la vie, et sans doute pour corriger et peaufiner notre vision du mariage et du célibat. Nous confessons que notre cœur charnel prend souvent le dessus et vient corrompre un peu nos pensées, nos attentes. Et cela vaut aussi bien pour ceux qui sont mariés que ceux qui ne sont pas mariés, ou qui ont été mariés, qui ne le sont plus. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre manque de foi, et nous te prions, s'il te plaît, de faire ton œuvre en nous puissamment par ton esprit, pour que, quelle que soit notre situation, présente ou future, tu sois toujours au centre, et que nous soyons toujours déterminés à te servir, à t'honorer, à te glorifier, à te rechercher par-dessus toute autre chose. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.